VOA Afrique. Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du mardi 9 octobre 2018. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Jean-Roger Billon.
Nous commençons par les titres.
Au Cameroun, le RDPC au pouvoir qualifie d'irresponsable, de séditieuse et de sans fondement la déclaration de victoire du candidat Maurice Kamto à la présidentielle de dimanche.
Une dizaine de Congolais ont été tués en Angola en marge d'une opération d'expulsion de clandestins.
En Côte d'Ivoire, le PDCI a accusé ses anciens alliés du pouvoir de comploter pour le faire disparaître.
En Afrique du Sud, les auteurs présumés de l'attaque meurtrière de mai dernier contre une mosquée de Durban devant le juge.
À Madagascar, coup d'envoi hier de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 novembre.
Ici à Washington, le nouveau juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a promis d'être impartial et indépendant après s'être heurté à la farouche opposition des démocrates.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Au Cameroun, le RDPC, parti au pouvoir, n'a pas tardé à réagir aux propos de Maurice Kamto, qui s'est déclaré vainqueur de la présidentielle de dimanche. De Yaoundé, notre envoyé spécial, Bagasikoura.
Défendre jusqu'au bout, a-t-il dit, soutenant que sa victoire s'appuie sur des chiffres et des procès-verbaux en sa possession. Quelques heures après l'annonce, le parti au pouvoir a mobilisé son état-major pour donner une réplique à cette déclaration, je cite, « irresponsable, séditieuse et sans fondement ». Dans une déclaration lue devant les médias et en direct à la télévision nationale, le secrétaire général du RDPC, Jean Nkwete, a invité tous les Camerounais à rester sereins dans l'attente des résultats du scrutin. Le parti de Paul Biya a insisté sur le respect des règles dans le processus électoral. Si la réponse s'est voulue rapide et vigoureuse, c'est que l'autoproclamation de Maurice Kamto a été un véritable défi lancé au gouvernement qui, à plusieurs reprises, a mis en garde les acteurs politiques contre toute proclamation des résultats hors du cadre légal. Bagasikoura, Yaoundé, pour VOA Afrique.
Une dizaine de Congolais ont été tués en Angola en marge d'une opération lancée par Luanda pour expulser les étrangers en situation irrégulière, notamment des milliers de Congolais. C'est ce qu'ont rapporté hier des sources dans les deux pays, Nanit Talani.
Les médias angolais ont rapporté que des violences dans la ville de Lukapa, dans la province angolaise du Lunda Norte, près de la frontière avec la RDC, avaient fait 11 morts, dont 10 Congolais et un policier angolais depuis mercredi. Selon le porte-parole du gouvernement provincial Armando Sipema, les autorités angolaises ont lancé la semaine dernière une opération visant les étrangers en situation irrégulière dans le pays et notamment dans les maisons d'achat de diamants. Cette opération a provoqué de violents affrontements entre populations locales et étrangers et l'intervention de la police. Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de 800 personnes, dont des Congolais, des Libanais, des Maliens et des Nigérians, ainsi qu'à la saisie de quelque 3 000 diamants, 150 véhicules et plus de 80 000 dollars, a annoncé le porte-parole de l'opération, Antonio Bernardo. Les personnes refoulées disent être démunies et avoir été prises dans les puits de diamants ou dans la rue par la police, qui les a embarquées dans des camions pour les reconduire à la frontière.
À 5 jours des élections locales en Côte d'Ivoire, le PDCI, l'un des 3 grands partis du pays, a accusé lundi le pouvoir de comploter pour le faire disparaître depuis que ce parti a décidé de se retirer de l'alliance avec le parti du président Alassane Ouattara. Son président Henri Konan Bédié aurait tenu ses propos, selon l'AFP, au cours d'une réunion du bureau politique dans son fief de Daoukro. Les élections municipales et régionales de samedi prochain seront un test pour déterminer la force des 3 principales formations ivoiriennes, le PDCI, le RHDP du président Ouattara et le FPI de l'ex-président Laurent Gbagbo avant la présidentielle de 2020.
En Mauritanie, un ancien colonel a été élu président de l'Assemblée nationale. Cher Ould Baya est un proche du président Mohamed Ould Abdelaziz. Au même moment, des militants d'un député emprisonné ont continué à réclamer sa libération, Abdourahmane Dia.
Cheikh Baya a obtenu 118 voix contre 27 pour son unique rival de l'opposition, l'islamiste Assouvi Ould Cheibani. Connu pour ses relations personnelles très solides avec le président Ould Abdelaziz, il a été maire de Zouerat, dont il est devenu député, président de l'Association des maires de Mauritanie et conseiller au ministère des Pêches. À ce titre, M. Ould Baya est surtout connu pour être le négociateur principal de la Mauritanie pour le secteur de la pêche, particulièrement face à l'Union européenne. Cette première session de l'Assemblée élue en septembre s'est tenue sur fond de violence. La police a dispersé des partisans du militant anti-esclavagiste Biram Oulda Abeid qui manifestait devant l'hémicycle pour réclamer sa libération. La police a fait usage de matraques et de gaz lacrymogènes pour les disperser, faisant 9 blessés, dont l'épouse du président Biram, selon le porte-parole des protestataires. Bien qu'élu député, Biram Oulda Abeid est en détention préventive depuis début août sur plainte d'un journaliste pour calomnie, injure et incitation à la haine.
En Afrique du Sud, 19 personnes ont été déférées lundi devant un juge pour avoir participé à l'attaque meurtrière d'une mosquée de Durban à main et posé une série d'engins incendiaires et explosifs dans des magasins de la ville. L'audience doit reprendre aujourd'hui. En mai dernier, 3 personnes non identifiées armées de couteaux étaient entrées dans une mosquée chiite de Verulam au nord de Durban. Elles y avaient égorgé un imam, poignardé 2 fidèles et lancé un cocktail Molotov rapidement éteint. La police avait alors évoqué la piste d'une motivation extrémiste.
À Madagascar, coup d'envoi lundi de la campagne électorale pour la présidentielle du 7 novembre. 3 récents présidents figurent parmi les 36 candidats en lice pour un scrutin à 2 tours. Le point avec Lionel Gahima.
Au pouvoir depuis 2014, le président Herri Rajoanarimampiana figure parmi les favoris, tout comme ses prédécesseurs Marc Ravalomanana et Andry Rajoelina. D'avril à juin, des centaines de militants de l'opposition ont occupé la place du 13 mai à Antananarivo pour demander le retrait des nouvelles lois électorales jugées favorables au président sortant. Ils ont par la suite durci leur position en exigeant la démission de ce dernier. De heurts entre les manifestants et les forces de sécurité ont fait 2 morts et des dizaines de blessés. Suite à ces manifestations, la Cour constitutionnelle malgache a ordonné la formation d'un gouvernement de consensus chargé d'organiser les présidentielles du 7 novembre. Si aucun candidat ne remporte plus de 50% de voix, un second tour suivra le 19 décembre. Plusieurs opposants lancent déjà des accusations de fraude en préparation. Certains remettent en cause la liste électorale, d'autres le logiciel qu'utilisera la commission électorale pour traiter les résultats communiqués par les bureaux de vote.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ici aux États-Unis, le nouveau juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a promis de faire preuve d'impartialité et d'indépendance après un processus très rude de confirmation de sa nomination par le Sénat et qui a divisé la nation. Il a fait ses promesses lors d'une cérémonie de prestation de serment à la Maison-Blanche en présence du président Donald Trump, des membres de sa famille et des 8 autres juges de la Cour. M. Trump avait auparavant dénoncé l'opposition farouche des démocrates à la candidature de M. Kavanaugh, accusé de méconduite sexuelle pendant qu'il était au lycée, ce que le juge a démenti avec véhémence. Nous reviendrons sur le juge Kavanaugh en seconde partie de cette édition.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a dit hier à son homologue chinois que les États-Unis ont de graves préoccupations quant aux actions de la Chine sur plusieurs fronts, dont les droits de l'homme et la mer de Chine méridionale. « Nous avons des désaccords fondamentaux », a-t-il dit hier à Pékin au ministre des Affaires étrangères Wang Yi. Les deux hommes, qui ont également parlé de la nécessité d'une plus grande coopération, ont utilisé des mots d'une rare franchise à cette occasion. M. Wang accusant à son tour les États-Unis d'exacerber les tensions commerciales et de traiter avec Taïwan d'une manière préjudiciable aux intérêts fondamentaux de la Chine. Pékin considère Taïwan comme partie intégrante de son territoire. Washington est tenu de venir en aide à l'île si la Chine essaie d'user de la force pour la reprendre.
Le président turc Recep Tayyip Erdogan a mis lundi les autorités saoudiennes au défi de prouver que le journaliste saoudien Jamal Khashoggi, porté disparu la semaine dernière, a bien quitté le consulat saoudien à Istanbul. Selon certaines sources turques, ce journaliste fort critique du régime saoudien aurait été assassiné par des agents de Riyad qui a immédiatement démenti, je cite, des affirmations dénuées de fondement. Pour sa part, le président américain Donald Trump s'est dit préoccupé lundi par la disparition du journaliste, ajoutant « J'espère que ça s'arrangera. À l'heure actuelle, personne ne sait rien là-dessus. De mauvaises histoires circulent, je n'aime pas ça. »
La Minute Éco, Nanit Talani.
Avec l'appui financier de la Banque islamique de développement, le Cameroun lance un projet de développement de 21,3 milliards de francs CFA dans l'extrême nord, région lessivée par Boko Haram. Le projet se propose jusqu'à fin 2022 de désenclaver les principaux bassins de production et de relier les principaux marchés grâce à la réhabilitation ou la création de 450 km de routes carrossables. Le projet vise aussi à accroître la production et la productivité agropastorale et halieutique dans le département du Logone et Chari, d'accroître les infrastructures socio-économiques et de diversifier les sources de revenus, notamment pour les jeunes et les femmes. Au Kenya, un nouveau parc industriel d'une valeur située entre 110 et 150 millions de dollars devrait voir le jour dans les prochaines années. Dénommé Nairobi Gate, le projet prévoit la construction sur 42 hectares d'espaces d'usines et d'entrepôts à destination de petites entreprises kenyanes affichant une croissance rapide de leurs activités afin de leur permettre d'avoir accès à de meilleures localisations. Fruit d'un partenariat public-privé, ce nouveau projet devrait aussi augmenter la création d'emplois au Kenya et permettre de mettre en œuvre l'agenda du président Uhuru Kenyatta. Et pour finir, en Égypte, vu le taux exigé par les banques commerciales, le gouvernement prépare 5 milliards d'obligations internationales dans les prochains mois. Il prévoit d'entamer une tournée pour rencontrer des investisseurs ciblant la dette souveraine des pays émergents.
À présent, les sports avec Yakuba Ouédraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Les Jeux olympiques de la jeunesse 2022 se tiendront en Afrique.
Le Sénégal a été officiellement désigné par le Comité international olympique pour accueillir ces JO 2022 lors de la session du CIO tenue hier dans la capitale argentine. Les membres du CIO ont validé la résolution de la commission exécutive recommandant la candidature du Sénégal face à trois autres postulants, la Tunisie, le Botswana et le Nigeria. Ces JO de la jeunesse se tiendront donc entre mai et juin 2022. Le président du Sénégal, Macky Sall, présent à la session, a évoqué un moment historique pour le CIO, l'Afrique et le Sénégal.
Ballon d'or 2018, Sadio Mané et Mohamed Salah parmi les nominés.
Le Sénégalais Sadio Mané et son coéquipier égyptien de Liverpool sont les deux Africains en lice pour le Ballon d'or 2018. Les organisateurs ont dévoilé la liste des 30 candidats. Mo Salah, déjà finaliste au prix du meilleur joueur UEFA de l'année et au Best FIFA Football Award, figure dans la liste aux côtés d'Ivan Rakitic, Neymar, Kylian Mbappé, Antoine Griezmann et Cristiano Ronaldo, entre autres. Le lauréat sera connu le 3 décembre prochain. Il sera désigné par les journalistes spécialisés dans le monde sur trois critères importants, les performances individuelles et collectives pendant l'année, le palmarès donc, la classe du joueur, son talent et le fair play, et la carrière du joueur.
Éliminatoire Cannes 2019, 5 changements dans la liste du Cameroun.
Confronté à plusieurs blessures, désistements et forfaits avec Vincent Aboubakar, Clinton Dié, Stéphane Baouken, Félix Eboué-Eboué et Dimitri Oberlin, le sélectionneur du Cameroun, Clarence Seedorf, a été contraint de revoir ses plans dans sa liste de joueurs convoqués pour la double confrontation face au Malawi les 12 et 16 octobre. 5 éléments ont ainsi été appelés en renfort, le défenseur Joachim Dawa Tchakonté, le milieu de terrain Petrus Boumal et les attaquants Jacques Zoua, Fabrice Olinga et Joël Tague Tadjo.
Rugby, le championnat d'Afrique à 7 se jouera en Tunisie.
La ville de Monastir abritera les 13 et 14 octobre prochains l'édition 2018 du championnat d'Afrique de rugby à 7. 12 pays y sont attendus. Le tirage au sort des groupes de la compétition a été effectué. Dans le groupe A, on retrouve le Kenya, le Maroc et le Botswana. Le groupe B renferme l'Ouganda, le Sénégal et le Ghana. Le pays hôte, la Tunisie, se retrouve avec le Zimbabwe et l'île Maurice dans le groupe C, puis Madagascar, la Zambie et la Namibie composent le groupe D.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Avec vous, Idrissa Sedoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Gabon, les électeurs ont voté le week-end dernier pour élire leurs représentants à l'Assemblée nationale ainsi que dans les assemblées des villes et provinces. Quelle ambiance a prévalu pendant ces scrutins? Quelles sont les attentes de l'opposition qui a pris part? Nani Talani a joint François Ando Edou, candidat au premier siège du 2e arrondissement de Libreville.
On a vu des gendarmes et militaires qui ont voté par dérogation alors que la loi l'interdit formellement. Certains ont même reconnu avoir reçu de l'argent du pouvoir PDG pour voter en sa faveur. Au niveau de l'organisation, des présidents de bureaux de vote qui ne savent même pas lire ou écrire. Au 2e arrondissement de Libreville, on a eu droit, par exemple, à un président de bureau de vote adolescent. Il avait à peine 15 ou 16 ans, qui ne savait même pas qu'il faut apposer 3 signatures sur le bulletin de vote pour qu'il soit valide. Par l'incurie de ce président de bureau de vote, une quarantaine de bulletins nuls ont été enregistrés sur 90 votants. Médiocrité aussi au niveau de la commission électorale qui, près de 48 heures après le vote, n'a pas donné le moindre résultat. Au plan politique, près de 90%, ils se sont abstenus le 6 octobre dernier.
Une partie de l'opposition a décidé de boycotter les élections. Une autre partie a décidé d'y participer. D'après vous, quelle est la meilleure stratégie pour contrer le PDG au Gabon?
Je crois que le boycott, nous l'avons déjà essayé en 2011. Et nous avons vu les limites et subi les conséquences du boycott. En 2011, nous ne sommes pas allés aux élections et sur une assemblée qui compte 120 députés, le PDG s'est retrouvé avec 114 députés, ce qui a permis à M. Ali Bongo de modifier la constitution et de rompre manifestement le consensus sur la constitution qui avait été trouvé à la conférence nationale de 1990. Mais cette fois, avec une majorité introuvable, M. Ali Bongo nous a ramené à un pouvoir monarchique héréditaire. Boycotter n'est pas toujours une bonne chose. Ça peut s'expliquer dans des pays de démocratie comme les États-Unis, la France, parce que là-bas, les hommes savent que s'ils ne sont élus que par 10% ou 5% de la population, ils savent qu'ils ne bénéficient pas de la légitimité qu'il faut. Par contre, ici, chez nous, en Afrique, on ne prend pas en compte le caractère de légitimité qui doit soir à chaque élection.
Quelles sont les chances que vous avez de l'emporter face au PDG?
Le pouvoir est une drogue en Afrique et la manifestation évidente et constante, c'est le cliquage des élections. Et je vous ai donné quelques exemples là tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il en sera à la commission de centralisation des résultats puisque nous n'avons aucun écho depuis 48 heures. Les mœurs politiques n'ont pas encore évolué chez nous. On reste encore un peu dans la barbarie. Est-ce qu'il faille laisser les barbares seuls manipuler la constitution, les lois du pays, voter des budgets qui font en sorte que le pays soit endetté terriblement? C'est la problématique de la question des élections en Afrique. Nous pensons que même si les chances de l'emporter ne sont pas très évidentes, mais qu'il faut se battre en laissant nos adversaires qui sont au pouvoir commettre des erreurs comme ce qui s'est fait en 2016, où le monde entier aujourd'hui sait que M. Ali Bongo n'a jamais été élu par les Gabonais et qu'il est là à la tête de l'État par la force des armes, par la force des institutions aux ordres, notamment la commission électorale et la Cour constitutionnelle.
François Ando Edou, candidat au premier siège du 2e arrondissement de Libreville, est membre de l'Union nationale des partis d'opposition du Gabon.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Au Tchad, le pain coûte deux fois plus cher maintenant dans certains quartiers périphériques de N'Djamena. Depuis une semaine, le prix de la baguette a en effet augmenté de 25 à 50 francs CFA. Une augmentation qui serait liée au manque d'énergie, à la hausse du prix de la farine de blé, ainsi que d'autres matières premières. Des précisions de notre correspondant André Kotmadjingar.
Sous d'autres signes, l'augmentation du prix des denrées de première nécessité telles que le pain a fait bouger le pouvoir, mais au Tchad, il n'en est rien. Initialement vendue à 100 francs CFA, une baguette de pain se vend aujourd'hui entre 125 à 150 francs CFA, alors que le prix sorti de la boulangerie fixé par l'État est de 85 francs CFA. Les consommateurs déplorent cette hausse du prix du pain.
Je suis venu avec 300 à la boutique, croyant avoir 3 pains, et à ma grande surprise, on m'a dit que le pain c'est à 125.
Je trouve cette augmentation anormale, étant donné que nous traversons une période de crise. Il y a eu un abattement de salaire, donc c'est complètement paradoxal.
Maintenant, il n'y a pas l'argent, mais pourquoi c'est augmenté?
Nous n'avons pas augmenté le prix du pain, refutent les responsables des boulangeries de la ville de N'Djamena. Pour eux, c'est la mauvaise foi de certains grossistes et revendeurs qui veulent s'enrichir sous le dos des paisibles citoyens qui se livrent à cette spéculation. Mahamat Hamad est le gérant de la boulangerie Iba.
Nous, on le vend sorti four, en gros, à 85 francs et à la cabane à 100 francs. Donc, il n'est pas à notre niveau d'aller voir qui vend à 125 et qui vend à 150. Vraiment, il n'y a aucune boulangerie qui n'a augmenté 5 francs sur le prix de vente en gros.
Les grossistes et revendeurs du pain mis en cause confirment que ce sont les boulangers eux-mêmes qui ont augmenté le prix à cause de la flambée du prix de la matière première et du manque d'énergie.
Les boulangers ont augmenté le prix du pain à cause de l'augmentation du prix de la farine et du manque d'électricité, semble-t-il. Maintenant, nous prenons le pain à la boulangerie à 90 francs CFA pour aller revendre au quartier à 125 francs CFA. Mais il y a toujours mes ventes parce que les consommateurs trouvent que c'est trop cher.
Nous, le vendeur, nous demandons juste aux boulangers de diminuer le prix un peu. Ça va aussi nous permettre de soulager un peu aussi le client via la crise.
Un autre responsable de la boulangerie qui requiert l'anonymat tente d'expliquer à VOA Afrique les raisons de l'augmentation du prix du pain dans les quartiers.
Le problème en est clientèle. Des périodes, hein,
c'est une question de concurrence entre les boulangeries de la place. Pour gagner la clientèle, nous avons cassé le prix du pain à la sortie du four qui est de 85 à 80 francs CFA. Mais avec cette crise, nous sommes tombés en faillite et donc on a simplement décidé de vendre le pain à 85 francs CFA comme prévu à la sortie du four. Raison pour laquelle nos anciens clients pensent que nous avons augmenté le prix maintenant.
Le responsable de la direction technique du commerce, ceux de la direction de la concurrence du prix et même du commerce intérieur contacté par VOA Afrique se rejettent la responsabilité. Ils trouvent cette question sensible et attendent l'autorisation de leur hiérarchie avant de se prononcer. André Godmadingar N'Djamena, VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, N'Djamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Sénégal, la pêche est un secteur qui occupe une place de choix dans les exportations du pays avec environ 15% des recettes d'exportation. À cet égard, Soumbé Dioun, à Dakar, constitue l'une des plaques tournantes de l'activité halieutique dans le pays, comme l'indique dans ce reportage notre envoyé spécial John Linden.
Le poisson, objet de tous les appétits. Nous sommes au port de Soumbé Dioun. C'est le plus grand port artisanal de la capitale sénégalaise, Dakar. Ces dizaines de pirogues amarrées en disent long sur l'intense activité que mènent de jour comme de nuit ceux qu'on appelle ici les mareyeurs. La pêche fait vivre de nombreuses familles ici à Dakar et plusieurs femmes trouvent leur compte au port de Soumbé Dioun. C'est le cas de Kemo, une vendeuse.
Elle dit que ça marche tout à petit. Quoi. Aujourd'hui, ça peut aller, demain, il n'y aura pas de travail, il n'y aura pas de produit.
Au Sénégal, la pêche emploie quelque 600 000 personnes, selon un rapport publié en 2016 par l'Institut d'études de sécurité. Pour autant, le poisson pourrait devenir une espèce rare ici au port de Soumbé Dioun si rien n'est fait. En cause, la pollution et ses effets dévastateurs sur les eaux et les rivages marins, mais aussi le pillage sans cesse croissant de nombreux chalutiers étrangers. Un pillage décrié par l'association des mareyeurs du port de Soumbé Dioun à travers son président Ami Doucet.
Il n'y a pas beaucoup de poissons. À cause de quoi? À cause des bateaux. Les bateaux européens qui viennent souvent pêcher dans nos côtes, sans l'autorisation. Ni rien du tout. Vous voyez, c'est pour cela qu'il n'y a plus de poissons. Donc si la pêche, on interdit la pêche au bateau de venir.
Selon les chiffres rendus publics l'année dernière par le ministère de la Pêche et de l'Économie maritime, le Sénégal produit environ 400 000 tonnes de poissons par an, soit la moitié de toute la production de l'espace UEMOA. La pêche occupe également la première position des exportations du Sénégal, avec environ 15% des recettes d'exportation. En 2015, elle a généré près de 200 milliards de francs CFA de recettes et plus de 205 milliards de francs CFA en 2016. Des chiffres qui pourraient s'accroître si certaines difficultés auxquelles font face les pêcheurs, marieurs et vendeurs du port de Soubédium trouvaient une solution.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump célèbre encore sa victoire sur les démocrates et les forces libérales, entendez progressistes, dans le dossier de Brett Kavanaugh, alors que le 9e juge de la Cour suprême s'apprête à se mettre au travail dès demain. Les analystes font pourtant remarquer que cela pourrait être une victoire à la Pyrrhus. Quelles seront donc les retombées politiques de ce bras de fer? Suivons Gaby Dorsil dans ce reportage réalisé par Mike Bauman.
Un rappel s'impose. Le processus de confirmation de Brett Kavanaugh avait débuté dans le chaos et la discorde.
Mr. Chairman, if we cannot be recognized, I move to adjourn. The American people, Mr. Chairman, I move to adjourn.
Et provoquer des semaines de manifestations. En fin de compte, Brett Kavanaugh a prêté serment samedi comme juge de la Cour suprême en remplacement du juge Anthony Kennedy. Dans les deux camps, démocrates et républicains, les réactions se situent entre colère et dégoût. This started
downhill. Cela s'est détérioré très rapidement. Une pente sur laquelle Schumer nous a placés, tel un derby de démolition.
Ce corps a été soumis à une preuve et nous avons échoué.
President Donald J. Trump.
Saluant le résultat du vote de samedi, Donald Trump a prédit un succès républicain aux élections de mi-mandat le 6 novembre.
La seule raison de soutenir les démocrates serait si vous êtes fatigué de gagner. Nous voulons gagner, encore et encore.
Dans le camp démocrate, le message est clair pour ceux qui se sont opposés au juge Kavanaugh.
Pour les Américains, ces millions de personnes outrées par ce qui se passe, il n'y a qu'une réponse. Votez. Si vous croyez que la Cour suprême devrait respecter les droits des femmes, allez voter.
À en juger par l'ampleur des manifestations à Washington et dans d'autres grandes villes américaines, les démocrates sont chauffés à blanc. Mais les sondages indiquent autant d'énergie chez les républicains.
Notre base est très motivée. Nous avons finalement découvert ce qui apporterait cette énergie aux républicains alors que nous n'y pensions même pas. C'est l'autre camp.
Le processus de confirmation a suscité un dialogue national sur les mauvaises conduites sexuelles, un dialogue dont les ramifications iront au-delà du scrutin.
Le peuple américain a appris une leçon et il donne maintenant de la voix car les temps ont changé.
D'autres prédisent que les institutions nationales résisteront à cette nouvelle tempête.
Le Sénat et le pays s'en remettront. Nous le faisons toujours.
Quant à Brett Kavanaugh, il devrait consolider une majorité conservatrice à la Cour suprême. Un corps qui, néanmoins, est appelé à transcender les querelles politiques.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets, débats. RM Show donne la parole à nos auditeurs. En direct sur Facebook Live, VOA Afrique. Participez en appelant au 001 202 205 26 33. C'est au 001 202 205 26 33. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, John Ellison. Merci à Jean-Roger Bion pour le suivi de l'actualité et Sim Souloumami pour la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Seloudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.